What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded,
sir.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattissimo. Come fattissimo.
Cinémascope, le dernier de l'année. Eh oui, nous sommes le 19 décembre et après, c'est la pause. Alors, un cinémascope aujourd'hui placé sous le signe des bêtes, voire de la bête 666, pour ne pas la nommer, je pense évidemment. Et nous finirons par ça, avant d'évoquer le cinéma de l'année 2025, nous finirons par ça, l'agent... secret de Kleber Mendoza Filho, qui nous a encore servi là une chose assez énorme après Aquarius et Baccarat. Mais avant cela, nous allons parler du Chant des Forêts, de Zootopie 2, et nous en profiterons pour évoquer donc la programmation jeunesse pour cette fin d'année et naturellement les fêtes. Pour ce faire, je suis pour le moment accompagné d'Alexis. Bonjour Alexis.
Bonjour tout le monde.
Et nous attendons peut-être la venue de Julien qui nous parlera aussi. Parce que je crois que tous les trois, on en a vraiment envie pour nous parler aussi de l'agent secret. Commençons par un chant plus doux que celui de l'agent secret, puisqu'il s'agit du Chant des Forêts de Vincent Munez.
C'est quoi ton meilleur souvenir ?
C'est comme j'ai vu pour la première fois le grand tétras. Ça a été un grand moment, ouais. Mmh. Cet oiseau vivait dans les Vosges depuis plus de 10 000 ans. En 50 ans, j'assiste à sa disparition.
Et toi, papa, quand est-ce que tu as passé ta première nuit dehors ?
À ton âge, exactement.
Et après ça, j'ai accompagné papy tout le temps. Une vie d'affût.
Il nous a senti. Dirige par là. Là. Les arbres aussi écoutent le chant des oiseaux, tu vois. Le monde sauvage, c'est un monde invisible, mais qui laisse des traces. Ça bouge dans le vent.
Tu veux te réveiller dans la nuit pour écouter les chouettes ?
Ah non, moi je veux dormir là.
Qu'on aille dans le Grand Nord.
Mais tu penses qu'on va revoir des tétras ?
On a des chances de les entendre, mais de les voir, c'est moins sûr.
Encore des histoires.
Le chant des forêts, il s'agit des forêts des Vosges naturellement et puis aussi des forêts de Norvège. Alors évidemment quand on pense documentaire animalier par Vincent Munez, on pense à La Panthère des Neiges naturellement, film réalisé par lui et Sylvain Tesson.
C'est ça.
Voilà. Alors, Alexis peut guère m'emboîter le pas là tout de suite. Peut-être que Julien le fera parce qu'il nous rejoint sur le Chant des Forêts. On est sur un film complètement différent. On a laissé tomber Sylvain Tesson, qui pour moi, bon, c'est pas une mauvaise nouvelle. Et puis, au lieu d'avoir Sylvain Tesson à ses basques avec une voix off interminable pendant tout le documentaire, on a l'histoire d'un homme, Vincent Munez, accompagné de son père. Michel et de son fils Simon, et ils partent tous les trois à la, c'est la quête hein, du grand tétras, un grand oiseau. Ça pour vous donner une idée, les traces de patte du grand tétras, ça a à peu près l'emprise d'une main d'homme adulte. Donc on voit à peu près la taille de l'animal. Cet animal a disparu pendant que le père de Vincent Munez s'occupait d'observer les animaux. Il a disparu dans les Vosges, principalement à cause du réchauffement climatique. Mais pas seulement, les activités humaines en général, plus proches de la forêt des Vosges, avec l'industrie en particulier. Et donc on a un film double, La quête du grand tétras qui se poursuivra jusqu'en Norvège où il vit encore. Et puis cette histoire, dans les forêts, avec l'observation de multiples animaux, beaucoup les oiseaux, mais pas que, aussi le lynx, le renard, le renne, le cerf plutôt, pas le renne. Un reportage animalier à part entière, et puis une quête familiale qui est très importante pour le film. Une quête familiale engagée dans la protection de la nature, naturellement, et qui se montre là à peu près l'équivalent aussi d'une protection de l'humanité. Parce que finalement, c'est bien ça qu'on veut préserver. C'est préserver l'humanité en préservant son environnement. Moi, c'est un film qui m'a énormément plu, à cause en particulier grâce à la qualité presque hallucinatoire des images. On a avec les téléobjectifs, on a des gros plans sur la tête du tétras. On voit pendant qu'il pousse son cri, qui n'est pas vraiment un cri, un claquement comme ça, on voit la buée s'échapper de son gosier. Enfin, c'est bon, c'est quelque chose de fabuleux. On a aussi des plans plus généraux qui font penser à des encres chinoises. Enfin, c'est sublime. Et puis on bascule de temps à autre De l'autre côté, du côté de ce que je disais, cette histoire familiale de trois hommes qui cherchent le grand tétras, mais qui se cherchent aussi eux-mêmes. Alors, on s'est vu au cinéma. Julien, tu as vu donc Le Chant des Forêts ?
Oui, j'ai vu Le Chant des Forêts. Bah, pareil, je te rejoins sur l'ensemble de ce que tu dis. Et effectivement, le film est très intéressant. Et puis ce côté un peu intimiste, moi, j'aime bien. Enfin, effectivement, on voit aussi l'autre côté aussi du métier, on va dire, entre guillemets, de projectionniste et de la passion qui les habite. Voilà, donc c'est cet affût qui mène là, et là du coup ils font ça en famille avec cette idée de transmission. Mais moi, ce que j'aime bien dans le film aussi, c'est qu'on n'est pas dans c'est que cette histoire, on voit bien que le plus jeune, il est pas non plus, il y a des moments où il a envie de faire autre chose que se geler le cul on va dire, entre guillemets, pour le dire poliment, avec ses vieux dans la nature. Mais il y a la magie qui fonctionne quand même. Moi, je trouve ça vraiment à la fois cette envie et cette transmission. Et puis comment ce Vincent Munier, il est arrivé enfin, il est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire ce photographe animalier assez exceptionnel. Quand on voit son père, du coup, effectivement, on comprend mieux en fait le personnage et comment il a construit son univers, quoi. Il a été initié à quelque chose d'assez magique, hein. C'est la forêt, la nuit, l'attente et puis la découverte de choses assez exceptionnelles au détour d'un arbre et d'un paysage. Je trouve, voilà, c'est aussi une belle histoire. Et bien sûr, effectivement, la qualité technique après des prises de vue, on voit des images qu'on voit très peu. Et ce qui est intéressant, c'est des images aussi sur, on va dire, une faune qui est pas forcément la plus glamour, on va dire, du cinéma. Hein. On n'est pas avec des lions, des éléphants, enfin des animaux très impressionnants. Là, on est avec des tétras, c'est une grosse poule pour le. Et puis voilà, mais la magie marche quand même tout à fait. Donc voilà, des cerfs, on voit leurs ombres, on voit, voilà, il y a un côté un peu magique. Il faut se laisser un peu plonger dans, il faut se laisser aller dans cette magie là, quoi.
Ouais, alors il y a effectivement une lenteur, c'est la lenteur des affûts, de l'attente, de la progression. Je pense que cette lenteur, elle est bienvenue dans le film, à mon avis, parce que justement, d'une certaine manière, les animaux, la nature, la forêt sont victimes de notre vitesse, d'une certaine manière. Et là, le fait de réintroduire la lenteur dans l'observation de ces espèces, c'est réintroduire peut-être l'élément principal qui serait appelé à les sauver et à nous sauver aussi. aussi, de ralentir un petit peu le rythme, serait peut-être pas mal. Puisqu'on est en radio, je tiens quand même à souligner la bande-son du film, qui est absolument extraordinaire. Il y a un matériel son éblouissant, je dirais, d'une certaine manière, avec des micros panoramiques qui permettent de saisir le petit sifflement du troglodyte en même temps que le caquettement du grand tétras. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et le brame du cerf. Enfin. Donc, il y a une bande-son qui est souligné cette bande-son par une musique, c'est Dom Lalena et Marie Stanley, là. J'ai oublié, elle ne me revient pas tout de suite, enfin c'est Bird on the Wire, donc une musique un petit peu baroque avec basse continue, polyphonie comme ça, qui marche très très bien avec le paysage. Donc on a effectivement un film assez complet pour aborder la nature, et je pense avec un discours plus clair et moins pseudo-poétique que celui de Sylvain Tesson par moment dans La Panthère des Neiges. Enfin, ça, c'est mon avis, ce n'est que mon avis. Nous allons passer à autre chose. Nous restons dans les animaux, évidemment, puisque, comme je le disais au début de cette émission, avec Zootopie 2.
Dans la police, le partenariat est la pierre angulaire du succès.
Non, non, ma carotte! Ah
fabuleux! Vous voulez arrêter les méchants?
Aïe! Arrête de me tirer les oreilles, tire pas les oreilles dans la fin!
Soyez sur la même longueur d'onde.
Très fouille-le! Alors si!
J'y suis presque!
C'est les poulets!
Totot!
Sauvez-vous tout le monde!
Bon, on gagne pas à tous les coups.
Come on, get on up!
J'ai une question à te poser. Est-ce qu'on fait une bonne équipe?
Bien sûr!
J'aimerais simplement savoir ce qu'on doit faire pour le prouver à nos chers collègues.
On inspecte le périmètre, on espionne un peu, si on trouve rien, on rentre.
Aucun serpent n'a jamais mis les pieds à Zootopie.
Y'a un serpent !
Arrêtez-vous au nom de la loi !
Les serpents ne sont pas les méchants. Il faut que j'arrange les choses. Et quand ce sera fait, ma famille aura enfin la possibilité de rentrer chez elle.
Oh non !
Hop, c'est Wild, une équipe de rêve.
Tous à terre !
Aide-moi à le sauver !
Je voudrais demander une réunion d'équipiers !
Je veux le renard et le lapin ! Savez-vous combien de mers ils ont déjà détruits ?
Un, deux, je m'arrêterai à deux.
Alors, tu sais où tu veux commencer ?
Si vous voulez vous trouver un reptile, je suis votre femme. Inspirez. Zootopie abrite une population de reptiles très discrets. Laissez-moi parler aux locaux.
Salut mon pote.
Salut mon pote.
Salut pote.
Eh, salut mon pote.
Mon pote. Eh, mon pote. Eh, mon pote.
Mon pote. Mon pote.
Eh, mon pote. T'as vu un serpent ?
Non.
Non, on n'a pas vu de serpent. Dans le champ des forêts non plus. Moi, je n'ai pas vu Zootopie, mais Alexis l'a vu, avait très envie d'en parler.
Oui, j'avais très envie de le voir déjà. Oui. 8 ans après le carton mondial donc du premier Zootopie, Disney continue sa politique actuelle, c'est-à-dire les suites, parce que Disney a du mal de continuer à faire des films originaux parce que ça ne fonctionne un peu moins. Donc on continue, Disney donc retourne enfin dans la métropole, de la ville la plus animée du cinéma, d'animation en tout cas, et la question était simple. Il en fallait vraiment un autre. Est-ce qu'un deuxième était utile ? C'est la question première qu'on se pose. Et la réponse est plutôt quand même rassurante dans l'ensemble. Zootopie 2 ne trahit pas l'original et puis est réussi son pari. C'est-à-dire que faire une suite qui est à peu près assez bonne en fait par rapport au premier. Alors on peut toujours faire une comparaison et on est quand même dans la continuité du premier, et on retrouve évidemment donc Judy et Hobbs, les deux personnages principaux qui sont un lapin et un renard, qui forcément on fait le duo et la comparaison, ces deux personnages qui ne vont pas ensemble, deux animaux qui ne vont pas ensemble, les deux personnages sont toujours aussi complices et ils sont installés désormais dans leur rôle de duo emblématique de la police de Zootopie, donc ils sont bien intégrés. Et en fait le film s'ouvre sur une ville en apparence plutôt apaisée, et en fait du jour au lendemain va y avoir une nouvelle intrigue avec l'apparition peut-être d'un serpent, donc une espèce qui n'était pas encore active dans la ville de Zootopie. Et donc on pense qu'un serpent en fait il vient d'un autre continent, et on apprend tout le long du film que le serpent a un rôle très très important dans cette ville là Et alors, ce qui est rassurant aussi, c'est que Zootopia a toujours les mêmes messages hein, de différence, de rassembler également, et un message vraiment, on met pas de gants, hein, de discrimination, c'est-à-dire que pour les enfants et pour les adultes, faut vraiment être, faut vraiment se cacher les yeux et fermer les écoutilles pour pas entendre le message. Donc, je pense que, en tout cas, le film, continue sur sa lancée. Et ce que je peux en dire, c'est que la BO est toujours au rendez-vous. Hein. Bon, on a Shakira cette fois-ci qui revient sur la BO, qui fonctionne toujours autant. Même si moi personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais en tout cas, ça fonctionne très très bien avec le film. On passe un bon moment. Par contre, ce que je peux dire au niveau de Zootopie, c'est que c'est plutôt quand même un film d'animation qui s'adresse à partir des enfants de 7-8 ans. Un peu avant, me paraît très très juste. Pour la compréhension et aussi par rapport au rythme du film et au message donné, c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça que c'est important, et ça je souligne, en tant que parent, de toujours faire attention à ce qu'on va faire voir à ses enfants, parce que chaque film en fait a ses âges vraiment, et il faut pas les faire voir trop tôt. Voilà, compréhension.
Oui, j'en parlais hors micro avec notre technicien que je n'ai pas représenté en début d'émission. Il s'agit naturellement de Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
À qui je disais qu'effectivement, dans la bande-annonce, on voyait que le film était en quelque sorte tissé de références à toutes sortes de films de genre, etc. Et que avant 8 ans, avant 10, ça paraît un peu difficile d'avoir les références. Même si ce sont des références qu'on trouve dans les séries, dans les films célèbres et un peu partout.
Et même pour les ciné... Enfin, en tant que cinéphile aguerri, j'ai pris plaisir de voir plein de références à chaque plan, en fait. C'était extraordinaire. Juste pour dire, on voit un plan de Shining, quoi, d'une des scènes les plus emblématiques de Shining. Et on prend un plaisir jouissif en tant que spectateur bien reconnu, voilà, tout le monde l'aura pas, mais en tout cas pour les cinéphiles c'est superbe.
Oui, c'est comme d'habitude avec le cinéma populaire, j'en parlais aussi avec Sylvain tout à l'heure. Je pense qu'à un moment donné il faut arrêter le reboot critique dans le cerveau et puis se laisser aller et kiffer et puis simplement voilà quoi.
Ça reste le cinéma, on kiffe aussi quoi.
C'est ça.
Voilà,
oui,
c'est des fois le cinéma de divertissement est là pour ça.
Là pour ça. Voilà. Tout à fait. Alors on avait décidé cette proposition d'Alexis que j'ai suivi bien volontiers pour l'animation de cette dernière de l'année, on avait décidé de parler de ce qui nous avait touché justement en matière de programmation jeune public, même si ce n'est pas à l'affiche aujourd'hui, cette semaine ou dans les prochaines semaines sur les écrans du Sud Ardèche. On a pensé qu'il était important de mettre en avant des films que nos auditeurs verront peut-être au cours de leur pérégrination pendant les fêtes, hein, on se déplace beaucoup pendant les fêtes pour aller voir la famille. On peut très bien arriver dans une ville où un de ces films sera à l'affiche, et puis peu importe d'une certaine manière. Donc, Alexis, de ton côté, tu avais envie de mettre en avant Winter Break d'Alexandre Penn.
Alors, c'est une petite corrélation, c'est-à-dire que Winter Break, c'est pas vraiment un film d'animation, c'est un film plutôt adulte qui était sorti il y a un ou deux ans, mais il y a pas mal de cinémas, j'ai vu en France, en tout cas, qui repassent le film, et c'est plutôt un film, alors, entre Breakfast Club et d'autres films des années 80, et si moi je conseille d'aller le voir absolument, parce que c'est vraiment un film de Noël en tant que tel, et moi ça a été une claque au niveau déjà au niveau de la bande son, c'est vraiment de la folk moi qui me touche particulièrement. Et deuxièmement, on a alors je veux vraiment laisser découvrir cette histoire là parce que moi je ne savais pas de quoi ça parlait. J'y ai été vraiment, j'ai vu l'affiche, je me suis
même
dit,
pas un petit synopsis,
même pas non, de temps en temps je le fais, ouais. Et je me dis, je vais vous laisser découvrir ça, Winter Break. C'est juste que voilà, il faut être préparé pour ce film parce que ça reste un drame, mais c'est hyper hyper intéressant. Donc si vous allez le voir et qu'il passe dans le ciné club de Noël de votre région, n'hésitez pas à y aller. C'est voilà un mélange de Breakfast Club et de tous ces films des années 80, les Goonies, etc., qui ont pu marquer la tendance. Et puis moi, je pense aussi au Cercle des Poètes Disparus, par exemple, Will Hunting, etc. Voilà. Et après, au film d'animation, pour les tout petits, moi, je conseille Première Neige, ouais. qui est un court-métrage de 30-40 minutes à partir de 2-3 ans. Ouais, qui est passé au rencontre, effectivement. Ouais. Et pour une introduction aux enfants au cinéma, ouais. C'est vraiment, vraiment génial sur le thème de Noël, sur le thème de la neige. Il y a plusieurs courts-métrages. Emmenez sans hésiter vos enfants. Voilà ce que je peux vous dire.
Alors, Julien et moi, nous avons des enfants un petit peu plus âgés. Mais Julien a peut-être repéré au passage des films jeunes publics qui lui paraissent particulièrement intéressants, je ne sais pas.
Écoute, après, nous, il y a des films qu'on propose aux rencontres, en fait, mais qui sont en avant-première. Après, je pense au Secret des Mésanges, qui va sortir, là, bien, enfin, je ne sais plus exactement la programmation, mais en tout cas, qui est évidemment un formidable film. Et puis, je sais pas, tu dis que tu voulais en parler.
Ouais.
Je te laisse en parler du coup si tu.
Ben écoute, si tu veux, effectivement, aux rencontres, j'ai eu le plaisir de rencontrer, d'interviewer pour Fréquence 7, d'une part Antoine Lanciot, qui est le réalisateur du Secret des Mésanges, et puis d'autre part Pierre-Luc Grandjean, dont les rencontres ont présenté une somme de 7 courts-métrages. Placé sous le titre d'un de ses courts-métrages, à savoir donc « Les bottes de la nuit ». Et effectivement, c'est dans les deux cas, c'est des expériences de cinéma d'animation pour les adultes et naturellement un plaisir pour le jeune public. Le Secret des Mésanges est devenu un livre signé par Antoine Lanciot et Pierre-Luc Grandjean, un livre accessible à partir de 8 ans, qui reprend donc l'histoire du Secret des Mésanges, qui est une petite histoire policière, un petit peu à la manière du Club des Cinq, du Clan des Sept de notre jeunesse à la Bibliothèque Verte, là. Voilà. Et alors, je signale au passage que les interviews sont audibles normalement en réécoute au niveau de l'onde curieuse là, sur la période des rencontres des cinémas d'Europe. Vous avez toutes les interviews que nous avons réalisées pour la radio. Il y a donc celle-ci. Une remarque, je crois, importante qui est sur la technique apparemment seulement, mais qui dit ensuite beaucoup de choses sur le ressenti. Le Secret des Mésanges, c'est un film d'animation en papier découpé. Donc tous les personnages, tous les objets sont réalisés en papier découpé à plusieurs échelles différentes. Et ensuite, c'est disposé sur des décors qui sont photographiés donc 24 fois par seconde en déplaçant ce qui doit être déplacé, voilà. Et alors, ce qui m'avait beaucoup beaucoup surpris, c'est que je ne m'attendais pas avec du papier découpé à avoir une sensation de mouvement aussi fluide. Et c'est en particulier lié au fait que les figures, les pantins, ce qu'il appelle les pantins, les personnages, sont dessinés de face, de profil et de trois quarts, et que parmi les mouvements qu'il fait opérer au personnage, il y a ces mouvements de simplement de tourner la tête, et donc ça donne une fluidité de laquelle on est surpris, parce que justement papier découpé, ça évoque plutôt une fixité a priori, c'est pas du tout le cas. Et puis toujours sur le plan technique, le Pierre-Luc Grandjean réalise des films sur écran d'épingle. Alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut se représenter donc un cadre de je sais pas 50 cm sur 30 qui est composé, ce cadre, enfin rempli de 250 000 petits tubes en plastique blanc. Et dans chacun de ces tubes, vous avez une épingle, et cette épingle est 5 mm plus grande que le tube, et par conséquent, en la rentrant ou en la sortant, elle projette ou pas une ombre sur la tranche du tube dans laquelle elle est insérée. Je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, vous pouvez de cette manière-là sculpter l'ombre que font les épingles ou pas. Et donc vous obtenez un film d'animation qui est en fait un film d'animation qui est entièrement réalisé par la captation des effets d'ombre et de lumière sur ce fameux écran. Et donc il y en a un exemple dans cette série, donc c'est Les Bottes de la Nuit précisément. Et puis sur YouTube, si vous avez envie de voir ce que ça donne, toujours de Pierre-Luc Grandjean, vous avez Le Chien, qui est un court-métrage, très court-métrage, qui emploie cette technique-là. Vous pourrez trouver d'autres courts-métrages, d'autres personnes avec cette technique-là, et vous verrez que ça a quand même quelque chose de magique. Je sais qu'on emploie souvent ce mot-là, mais là, franchement, la sculpture de l'ombre et de la lumière, ça donne des choses voilà, tout à fait étonnantes. Moi, c'était un petit peu mes conseils pour jeunes publics à l'issue de ces rencontres des cinémas d'Europe qui nous ont encore une fois gâtés à ce niveau-là. Quoi.
Et puis il y a Arco qui va sortir là.
Ah, mais oui, bien sûr.
Pour les plus vieux des enfants, on va dire, et pour les plus jeunes ou même les plus vieux des adultes, je pense que il faut pas hésiter à aller le voir. Là, je crois qu'il sort bientôt là ou là.
Oui, je te remercie Julien parce que j'allais oublier, alors que c'est le premier film que j'ai vu aux rencontres, et effectivement c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une très belle histoire, il y a un scénario, souvent ça peut manquer un peu dans le cinéma, là il y a un vrai scénario complexe mais pas étouffant, compréhensible, et puis plusieurs univers en fait, hein. Il y a trois univers qui se superposent et c'est vraiment passionnant. Merci Julien de m'avoir rappelé Arco.
Film produit par Nathalie Portman et soutenu. Oui. Voilà, elle y croyait dur comme fer à ce film-là.
Ouais,
voilà.
Ouais. Mais Hugo Bienvenu, après, il vient du monde de la BD, donc il a fait quelques BD vraiment formidables, qui sont plutôt, on va dire, destinées aux adultes. Hein, voilà. Mais là, le film est quand même accessible, je crois, à partir de 8-10 ans. Voilà.
Oui, je pense, oui.
Mais voilà.
Très beau, très... Et puis ça fait partie de ces films, je dirais aussi du Secret des Mésanges, d'Arco, c'est le cas aussi. C'est un film d'animation où il n'y a pas de très bons et de très méchants qui s'opposent. On est dans un monde normal, ni angélique, ni catastrophiste. Et finalement, je pense que ça parle beaucoup plus à l'intelligence de n'importe qui, quoi.
Et pour ceux qui l'auront loupé, qui ne seront pas arrivés à aller le voir, on aura une séance spéciale un dimanche matin, je crois que c'est le 11 janvier à l'USAS.
D'Arco ?
D'Arco, ouais.
Ah oui, à noter. Ça sera dans le programme de la tournée, le prochain ?
Oui, qui vient juste de sortir.
Je pourrais en dire juste
un petit mot, parce qu'on a... Voilà.
Il sent encore l'encre, je sens.
Il est encore chaud. Oui, j'en ai amené quelques-uns.
C'est gentil d'avoir pensé à nous. On va changer d'atmosphère, là, je crois, radicalement, avec le dernier film donc, de Kleber Mendoza Filho, l'agent secret.
Essa é a pessoa.
Eu quero o buraco na boca.
Isso é feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha. Tem matador me procurando, é isso que você está dizendo?
Tem.
Acho que você devia estar aqui mesmo. Eu vou levar meu filho.
Olha, é uma sacanagem. Um grau.
Agora você tem que estar sexta-feira cedinho.
Ele é Armando?
Não. O nome dele é Marcelo.
Armando? Armando?
Se fosse você, me escafedia. É por isso que tem que defender o que tem ainda. Tu e o meu neto.
Você não sabe com quem você está se metendo, rapaz.
Hombre dirá que Brasil melhor, com menos pinhaça.
Desse cara. Eu matava ele com um martelo. Tu anda armado? Não, mas eu sei usar um martelo.
Un film do Brasil, vous l'aurez compris, ça. Alors, on s'est pas battu pour savoir qui allait en parler, je dirais pas ça, mais on a très très envie d'en parler tous les trois. Alors on a tiré au sort pratiquement, donc c'est Julien qui commence.
Ah, je croyais que c'était toi. C'est moi. Ok, ça marche. Eh ben, j'avais compris là, tu vois, on en a tellement parlé. Voilà, pour les gens qui sont cinéphiles, qui aiment le cinéma et qui adore les choses bien faites dans ce sens-là, c'est vraiment un film à aller voir parce que à la fois le montage, les plans, la musique, enfin tout est au rendez-vous pour plonger dans ce Brésil des années 60, fin des années 70. Et c'est fait voilà d'une main de maître. Le film peut faire un petit peu peur parce qu'effectivement il est long, 2h40, mais on voit pas le temps passer parce qu'il se passe toujours quelque chose à l'écran. Il n'y a pas de temps mort et il y a des rebondissements jusqu'au bout. Il y a des dialogues écrits, mais alors vraiment voilà, on est là, on les suit, des fois on est perdu, ils nous rattrapent, on repart dans une autre direction, et puis c'est à la fois un western, un film politique, un film, enfin voilà, il se passe plein de choses tout au long du film, un film fantastique à certains moments, mais petite touche. Le film est vraiment formidable. Alors, il est réalisé par un réalisateur qui n'est pas inconnu, qui a fait Aquarius en particulier, que certains ont pu voir, et surtout Bakuro. Bakuro, c'était le film qui l'a fait, on va dire, le plus connaître à l'international, je pense, hein, qui avait déjà eu, je crois, des prix. Enfin voilà, il était quand même assez connu. Et plus récemment, il a fait un documentaire qui s'appelle Portrait Fantôme, hein, qui est un documentaire sur la ville de Recife, puisque ça se passe là-bas. Il est de là-bas. Et on retrouve, alors moi qui ai vu les deux, j'ai retrouvé, on va dire, dans ce film-là, puisque le film est tourné à Recife, et l'intrigue se passe là-bas, justement des choses qu'il avait filmées dans ce documentaire, en particulier les cinémas de la ville qu'on revoit là. Donc du coup voilà, il y a toujours ce clin d'œil. Alors évidemment, pour les gens qui aiment le cinéma, il y a aussi des plans qui se passent dans des cinémas, dans un cinéma en particulier, avec le projectionniste, les bobines 35 mm,
les dents de la mer.
Il y a aussi les dents de la mer. Alors c'est marrant parce que là, moi j'ai regardé un petit peu, mais l'âge du réalisateur au moment de la sortie des dents de la mer correspond à l'âge du petit garçon. Ouais. Et alors du coup, je pense qu'il y a beaucoup de vécus qui sont dans ces scènes et dans ces références de la mer, le film qui fait faire des cauchemars, mais voilà, qu'on a envie de voir absolument. Donc j'ai vraiment pris énormément plaisir à voir ce film, plein de couleurs. J'en profite pour dire un petit coucou à Thiago, puisque c'est la ville où il habite, comme il est parti, qui était le projectionniste à la maison de l'image, et donc du coup voilà, ça m'a fait beaucoup penser à lui de parcourir cette cité de Recife, et donc du coup j'en profite par-delà, on va dire, la mer, à lui faire un petit coucou d'Ardèche. Voilà.
Ville très contrastée, hein, entre l'Aquarius et puis là.
Alors, j'ai pas fait de pitch du tout. Du coup, j'ai pas raconté l'histoire, mais.
Choses. On va faire comme pour Winter Break. On va dire, allez voir. C'est un mélange de thriller. Tu l'as dit, hein. C'est un mélange de thriller. C'est en gros un prof de fac qui est mis en danger par la dictature et qui doit se cacher. Voilà. Et qui a un contrat sur sa tête. Et voilà. Donc, voilà, en gros, le truc. Mais le film d'ailleurs joue pas mal sur le fait qu'on doit comprendre ce qui se passe. Tout n'est pas exposé. Alexis.
C'est vrai. Et moi je tiens à préciser que, alors j'ai beaucoup aimé le film déjà en premier temps. Et en fait on redéfinit pas, mais on montre ce que c'est un vrai agent secret quelque part, parce que l'agent secret de la pop culture démontre un petit peu différemment. On pense plus à un James Bond ou autre chose, et là non, en fait un agent secret c'est une autre identité, des choses qui se font un peu plus dans, ben justement dans le secret, et on sauve pas, on n'a pas des flingues partout, on fait pas de cascade à tire-larigot, non, justement on est secret, on prend des informations un petit peu de partout, on est dans la confidence. Et on voit bien que tout le monde a des identités différentes. Et parfois, il est même difficile, en tout cas dans le film, de comprendre un petit peu qui est qui.
C'est pas un James Bond, voilà, le titre pourrait c'est pas du tout un James Bond, puisque effectivement on n'est pas forcément dans les milieux de l'espionnage, mais on est plutôt dans les milieux politiques, voilà, et économique et mafieux, on va dire, du Brésil de la fin des années 70.
Exactement. Et, ouais. Là, et juste deux mots, et après je laisse Olivier finir. Mais en tout cas, le film, les villes sont très, 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 très bien filmées, où ils sont tournées. On est vraiment dans le réel. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'a interloqué en premier abord, c'est qu'on s'y croit, la tension, elle est permanente. Ouais. Et alors, moi, ce petit côté fantastique, j'ai pris un malin plaisir de voir le film et de rigoler, en fait. On rigole, on est sous tension, on est et puis il y a un peu de Tarantino aussi là-dedans.
Il y a un peu de sensualité aussi.
Il y a beaucoup de choses. C'est très cru aussi. Hein.
Oui,
très
cru. Il y a beaucoup de choses. Pour tenter de résumer, je retiendrai le côté de Julien, le côté film d'auteur par excellence. Avec toutes les connaissances de filmique et les techniques, le montage, enfin, etc. Et puis du côté d'Alexis, je retiendrai beaucoup la notion d'immersion. On est vraiment immergé. Et alors d'un point de vue un peu philosophique, je dirais que Mendoza Filho, il arrive à filmer ce phénomène d'une omniprésence de la violence. Hein, qui peut surgir même du cœur de la chose la plus sensuelle qui soit. C'est très troublant. Et ça, c'est vraiment le fruit de la dictature. C'est-à-dire, la dictature, elle met pas fin à la violence omniprésente. Elle y participe et elle essaye de gagner dans cette violence omniprésente en étant un cran au-dessus dans la violence. Et ça, je trouve que, sans en dire un mot, Mendoza Filho arrive à nous le montrer avec cette dose de fantastique qui est très brésilienne, hein, c'est le réalisme magique qu'on retrouve dans la littérature brésilienne.
Et alors, juste pour compléter par rapport à ça, c'est que la violence à l'écran, comme elle est montrée, vous attendez pas à voir de la violence crue et gratuite. Il y a beaucoup de hors-champ et justement de subtilité dans tout ce qui est montré. Ouais. Et effectivement, on parle des Dents de la Mer. Je pense qu'il a été à bonne école sur le hors-champ. C'est-à-dire, ce qui fait peur, c'est pas vous verrez pas de choses. Il y en a un peu, mais il y en a beaucoup moins par rapport à ce qu'on pourrait s'y attendre sur un film avec la thématique.
Ce qui donne cette impression de violence toujours menaçante. La bête est présente, elle peut surgir n'importe où, même et surtout là où on l'attend le moins, dans les locaux de la police, par exemple. On devait au départ choisir un film qui nous aurait particulièrement marqué durant cette année. Moi, j'ai pris mon carnet que vous avez devant vos yeux, là. J'ai commencé à feuilleter et j'ai vu un film que j'avais vu le 8 janvier, un que j'avais vu le 20, le 21, le 23 et le 30 janvier 2025. Alors, j'ai décidé d'arrêter de feuilleter parce que j'avais déjà autant de films que j'avais envie de rappeler. Je pense à La Chambre d'à côté d'Almodovar, Je suis toujours là de Walter Salles, l'autre brésilien, Hiver à Sokcho de Koya Kamura, qui était magnifique, Le quatrième mur, je ne sais pas si vous vous souvenez, de David Ulofen, qui était incroyable, et puis le Jardin Zen aussi, qui avait été une révélation à l'époque. Donc j'ai décidé que je prenais acte de l'extrême richesse de la programmation du cinéma. Allez voir ce que vous voulez.
Moi, si je peux dire deux mots, l'attachement de... Alors, je ne me souviens plus, mais de Karine Tardieu. Et puis...
Oui, bien sûr.
Ouais. Et puis moi, c'était Rapace. Alors, j'ai plus le réalisateur.
Non, je l'ai pas.
Mais voilà, qui était sorti au mois de juin, qui n'avait pas fait beaucoup de bruit, mais qui était un formidable thriller français.
Donc ça, oui, ça confirme qu'il y a des choses. Julien, des choses qui t'ont marqué? T'en vois énormément.
Moi, je suis comme toi, tu vois, il y a tellement de choses qui étaient très belles. Après, moi, disons que les choses qui ont un peu particuliers, on va dire, qui étaient un peu inattendues en termes de succès pour moi et de plaisir de voir, pareil, il y a eu Le Moine et le Fusil, tu vois, qui a été un film qu'on a fait deux séances dans l'année, mais à chaque fois, les gens étaient conquis par ce film. Et puis, ça me fait plaisir parce que le cinéma boutonne spontané, oui. N'est pas très très présent. Et c'est, je pense, c'est le seul film de, non. C'est un des seuls films qu'ils ont réalisé, parce qu'ils en réalisent quasiment pas. Mmh. Et donc du coup, voilà, on peut dire là-dessus. Mais effectivement, il y a une belle richesse et des films. Effectivement, on pourrait avoir une liste très 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 longue. Ne serait-ce qu'aux rencontres, là, ceux qu'on a vus,
ouais.
Ceux qui vont sortir, il y en a aussi qui vont être bien. Peut-être que du coup, je fais une subtile transition sur le festival Un livre, un film qu'on va sortir, par exemple, où vous allez pouvoir découvrir 5-6 films. Alors, on a sorti la tournée, on en a parlé, et il y a quelques moments forts, hein, je vous laisserai le découvrir, mais il y a en particulier ce festival qui est pour sa deuxième édition au cinéma de Tueil, et on va avoir 5 films. On va être sur un week-end, donc c'est le 31 janvier et 1er février. Donc je vous laisse réserver, on en reparlera, réservez votre date et vous pourrez découvrir, il y aura des films vraiment vraiment intéressants, je pense, en tout cas, où on peut discuter, lire et partager. Donc retenez bien cette date.
Prochaine Cinémascope, 9 janvier, si mes comptes sont bons, et on aura effectivement l'occasion de parler de la tournée d'Un livre, un film, le festival du week-end. Et ben, il me reste à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne nouvelle année. Merci.
Bonne fête à tous, merci.
Bonne fête.